Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, jeudi 3 mars. Bonne journée, bienvenue au 98,5. Un ciel assez couvert ce matin, c'est assez nuageux. Moins 9 degrés, mais on va par contre assister à un dégagement. Les vents vont varier, 20 km/h, quelques pointes à 40 km/h et le maximum aujourd'hui, moins 8. La nuit prochaine, c'est assez froid, c'est autour de moins 17. Et on termine la semaine avec du temps ensoleillé, un peu de nuages, moins 5 degrés. Et pour la fin de semaine, faut le dire maintenant, samedi, c'est assez nuageux. Il y aura de la neige un peu en soirée, pas beaucoup. Mais là, on entre dans un espèce de cocktail météo pour la nuit et la journée de dimanche. Donc, ça commence par de la neige. Il y aura de la pluie verglaçante. Et finalement, puisqu'on aura presque 10 degrés dimanche, plus 10, ben ça veut dire de la pluie pour une bonne partie de la journée. Faisons le point d'abord sur la guerre qui dure depuis maintenant plus d'une semaine. Et on le voit sur le terrain, les observations que peuvent rapporter différents médias. La Russie continue d'avancer. Des villes, les villes les plus importantes du pays sont, entouré, et dans certains cas, le siège est commencé. Et Mariupol, Kharkiv également, qui sont des villes touchées. Et quand on parle de villes touchées, on parle de civils. Des bilans circulent sur le nombre de morts du côté russe, du côté ukrainien. C'est difficile d'avoir un portrait très juste. Certains avancent même le chiffre de 2000 Russes, soldats russes, donc qui seraient décédés. Il y aurait également beaucoup de victimes du côté ukrainien, des civils. Il y a une préoccupation humanitaire importante, je vais y revenir dans quelques instants. Mais donc, même si on s'attendait peut-être à une opération éclair de la part de l'armée russe, ce n'est pas le cas. Et il semble que les Russes sont présents maintenant dans plusieurs quartiers et se retrouvent face aux citoyens ukrainiens. Il y a des images qu'on a pu voir, par exemple, de blindés qui avançaient dans les rues d'une des villes. Et ce sont les citoyens, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, qui sont allés se dresser sans armes devant ces véhicules blindés. Et à Kherson, on reconnaît de part et d'autre que la ville maintenant est sous contrôle militaire russe. Alors, jusqu'à quel point les Russes vont accentuer les bombardements avec, entre autres, l'utilisation de ces bombes à dispersion? Là, je rappelle le concept, ça part d'un avion, la bombe s'ouvre et laisse partir d'autres petites bombes, là, si je peux prendre cette image-là, sensibles, précises, ce qui cause évidemment beaucoup de dommages dans des territoires occupés par des civils. Alors, c'est pas mal la situation sur le plan militaire. Entre-temps, vous avez tous les pays qui continuent soit de promettre de l'argent, soit de l'envoi d'équipements, de l'équipement pour combattre les Russes, et même des pays qui sont habituellement, je dirais, un peu du côté de la neutralité, on peut penser à la Suède, qui accepte de fournir des armes. Mais je veux parler de l'enjeu humanitaire parce que c'est important. C'est 1 million de réfugiés depuis le début de la guerre, donc en une semaine. Et j'écoutais, en m'en venant à la station ce matin, un des responsables de l'UNICEF à CNN qui disait qu'en gros, c'est à peu près 500 000 enfants. Et les gens qui quittent pour la plupart sont des enfants, femmes et personnes âgées. D'ailleurs, ils sont priorisés quand vient le moment de se déplacer par train. Et les trains sont gratuits. Et mais ça veut dire qu'on a déjà 1 million et on s'attend à ce qu'il y ait des centaines et des centaines de milliers de personnes qui vont s'ajouter dans les prochains jours. Et là, vous commencez à avoir des enjeux à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Et ce porte-parole de l'UNICEF disait il faut trouver de l'eau. Il faut trouver de la nourriture, il faut protéger les enfants parce que des enfants qui, malheureusement, ont été blessés, dans certains cas tués aussi, lors de ces opérations. Et puis, en parallèle, reprise des pourparlers On sait que le président Poutine a pris des positions très claires. Ce qu'il veut, dans le fond, c'est sortir le régime actuel, donc renverser le gouvernement, y aller peut-être dans un régime fantoche et s'assurer que l'Ukraine ne sera jamais un joueur de l'OTAN. Et c'est beaucoup aussi dans sa logique de récupérer ce qui n'aurait jamais dû être perdu avec la chute de l'Empire soviétique. Et c'est tout ce nationalisme que Vladimir Poutine véhicule. D'ailleurs, beaucoup de choses autour de lui ce matin. D'abord, il y a une chaîne américaine qui prétend, et ça c'est toujours très délicat parce que ça vient de qui et comment on peut valider, mais quand même, qu'il perd patience devant la lenteur des opérations militaires. Le convoi immobilisé le serait aussi pour des raisons de problèmes d'équipement, d'approvisionnement. Alors, il aurait, comme on dit, pété sa coche avec des militaires. Et ces mêmes personnes qui disent ça affirment que Poutine n'a pas une lecture très juste de la réalité. C'est un peu comme s'il était dans un monde fermé. Il n'écoute personne, personne n'arrive à le convaincre. Des gens disaient, mais qui peut le faire changer d'idée? Qui peut l'influencer? Ben, semble-t-il, pas beaucoup de monde. Reste autour de lui. Puis vous pouvez voir dans le Journal de Montréal l'espèce de tableau de ses amis, quelques oligarques, quelques visages terrifiants d'une force spéciale, espèce de garde rapprochée. Et des oligarques qui sont de plus en plus ciblés. La justice américaine y va par étapes et il y a actuellement, au sein du ministère de la Justice, une équipe formée pour d'abord identifier les actifs des oligarques, déterminer ce qu'ils ont, et ça veut dire des appartements à New York, ça veut dire des bateaux de luxe, ça veut dire des avions, et ultimement de saisir ces biens. Alors, est-ce que l'ensemble de ces sanctions économiques, bref, la pression qui est exercée, ce sera suffisant? Plusieurs pensent que non. Et pour vous montrer un peu, je dirais, l'allure du discours qu'on retrouve ce matin, c'est le ministre russe des Affaires étrangères qui déclare que l'Occident a en tête une troisième guerre mondiale. Et, dit-il, une troisième guerre mondiale, ça passe par l'arme nucléaire. Donc, on ajoute à ce discours qui fait peur, et il précise que ce ne sont pas les Russes qui veulent la guerre nucléaire, mais que l'Occident, avec ses mesures disproportionnées, font en sorte que cette pression, donc, qui est constamment exercée. Alors, c'est ce qu'il a déclaré il y a quelques heures à peine. Et on prépare une reprise des pourparlers, toujours à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus, entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, ça fait un peu le tour ce matin. Il y a tout le volet aussi des sanctions qui continuent et également de la possibilité que, et ce serait trop tôt pour l'instant, mais qu'on pourrait, évidemment, ultimement se retrouver devant un cas de crime de guerre et que des procédures soient prises contre la Russie et contre Poutine. Mais je dois vous dire qu'il y a quand même pas mal de grogne, même si elle est étouffée à l'intérieur du pays. Mais des gens qui sont plutôt pro-russes, je voyais Le Monde ce matin, dans le journal Le Monde, des gens qui disent « ben là, il est allé trop loin ». Mais en même temps, comment... ne pas perdre la face, comment essayer de trouver une solution pacifique à cette guerre. Certains experts disent que ça va durer des mois, des années, que c'est un conflit larvé et qu'une guérilla urbaine, ben, comme le disait notre invité hier, le général français, ben, c'est pas tout à fait le même rapport de force. Et quand vous connaissez tous les coins de votre capitale, votre ville, quand vous connaissez tous les coins, les tunnels, les souterrains, vous avez comme un avantage extraordinaire sur l'ennemi. Alors voilà pour le portrait de la situation en Ukraine ce matin. Je vais ajouter une chose. Je parle, et je ne suis pas le seul, et même les gens là-bas parlent de la ville de Kiev, la capitale. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit en disant, par respect pour les Ukrainiens, on devrait utiliser l'appellation Kiev. Et je pense qu'ils ont raison, et j'ai vu les autres médias là, qui ont adopté la même politique. Et je pense que c'est normal. Souvent, on a tendance à avoir des réflexes. On a toujours parlé de la capitale Kiev, mais c'est l'appellation russe. Et dans un conflit comme celui-là, de revenir à l'appellation ukrainienne, Kiev, me semble, disons, fort à propos. Je veux vous parler de cette opération qui a pris naissance en Nouvelle-Zélande et qui s'est conclue par l'arrestation pour le Canada d'une cinquantaine de cyberpédophiles. Donc, c'est une opération lancée en 2019, comme le disait Bénédicte tantôt. Et avant de regarder certains détails, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est le rôle des hébergeurs. Donc, ces entreprises qui stockent de l'information, qui stockent du matériel et qui n'ont pas beaucoup de filtres, qui ne contrôlent pas tellement le contenu au nom de la liberté. Et il y en a au Québec de ces hébergeurs, 4 à mon souvenir. Et c'est donc de l'exploitation d'enfants et de bébés par des cyberpédophiles qui, justement, profitent de ces entreprises pas très, très, portées sur la surveillance. Et dans l'opération qui nous intéresse, là, on parle de milliers de comptes, de dizaines de milliers de comptes. Pour la Nouvelle-Zélande, on parle de 90 000 comptes. Puis là, on est probablement à 150 000 à travers le monde. Des gens qui peuvent en avoir plusieurs, mais ce sont donc de milliers et de milliers de cyberprédateurs qui sont sur le web. Au total, il y a 186 accusations qui ont été déposées. La police dit avoir sauvé 12 enfants, parce qu'on a tendance à ne pas le réaliser, là. En tout cas pour beaucoup de gens, là, j'entends ça souvent, pour avoir des images d'enfants abusés, pour avoir des images de bébés maltraités. Ben, il faut que ça se prenne en temps réel. Il faut que ces photos-là existent. Ce ne sont pas des dessins. Ce ne sont pas des images de dessins animés. Ce sont des enfants réels. Et il y a dans ces opérations, justement, des policiers qui arrivent à identifier l'enfant et à sauver l'enfant. Bénédicte me parlait en dehors des ondes. C'est pas tout à fait le même cas, mais c'est pas loin. D'un gars qui a abusé de la petite fille de sa conjointe. Puis la conjointe a été complice dans ça. 400 images d'exploitation sexuelle d'une petite fille. Le dossier est au palais de justice actuellement. Et c'était pour consommation personnelle, c'est pas du matériel qu'il mettait sur le web. Et j'ai retrouvé les statistiques qui font réfléchir. Ça a été rendu public cette semaine, il y a quelque temps, là, mi-février, par la Sécurité publique du Canada. Je vous donne juste des chiffres. Là. De 2014 à 2020, cyberaide.ca a traité 4,3 millions de cas relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants. Depuis le début de la pandémie, les cas signalés d'extorsion sexuelle, d'exploitation en ligne, ont augmenté de 88 %. 25 % des parents ont déjà été témoins de comportements inappropriés envers leurs enfants sur Internet. Dans les cas de leurre, on a remarqué que 39 % des cas impliquaient des victimes de 13 ans ou moins. Donc, des victimes qui sont de plus en plus jeunes. Je ne veux pas vous inonder de chiffres. Je ne veux pas vous inonder d'images horribles. Mais il y a deux ou trois conclusions qu'on peut tirer très rapidement. La première, c'est que les enfants, même si on est des parents qui surveillent, sont quand même à risque. Puis il ne s'agit pas de devenir parano, mais il faut juste être conscient que sur des plateformes comme Facebook, des plateformes de jeux en ligne, il y a des gens qui naviguent, qui sont des cyberprédateurs et qui veulent entrer en contact avec vos enfants. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater. La deuxième chose, c'est qu'on a des hébergeurs qui préfèrent fermer les yeux en disant « ça ne nous regarde pas, puis on ne commencera pas à, disons, vérifier le contenu ». Or, sans ces hébergeurs, ben, ou la collaboration de ces hébergeurs, c'est très difficile de pouvoir mener un combat. Écoutez, ça a pris plus de 150 000 comptes avant que quelqu'un comme ça allume en disant « je pense qu'on a un problème dans ce dossier-là ». Alors, on aura plus de détails sans doute dans les prochains jours. Je rappelle que c'est la route qui nous mène vers la fin du masque obligatoire qui a été tracée hier par le gouvernement. En gros, le port du masque ne sera plus obligatoire à la mi-avril, puis on va te donner des avis de 10 jours à la fois. Pour ce qui est du transport en commun, métro, autobus, avion, là, Bien, ça va être au moins jusqu'au mois de mai. Dans le cas des avions, vous le savez, c'est de juridiction fédérale. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi devancé, avec la santé publique, la date de la levée du passeport vaccinal. Donc, ça va être le 12 mars au lieu du 14, ce qui fait que les lieux publics pourront passer à 100% de leur capacité. Il n'y aura pas de registre de visiteurs. On va retrouver la normalité avec les restos, les amphithéâtres, les spectacles, bon, tout ça. Et bref, il va rester que, à partir de la mi-avril, probablement, les mesures qui vont toucher les gens qui se déplacent dans le transport en commun. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. Toutes les activités vont revenir à partir de ce moment-là. Et aussi, un mot rapide sur les effets, on le voit, de la guerre, de la crise actuelle sur le portefeuille des gens. D'abord, Marc en parle régulièrement du prix de l'essence. On n'est pas loin d'1,80 $. Et on s'attend d'ailleurs à une augmentation importante, qui peut varier, mais quelques sous additionnels le litre. Tout ça en raison de l'augmentation du prix mondial. Je le sais, il y a 56 000 explications là, quand on parle du prix du pétrole. Mais je voyais ce matin des propos de mon ami Carole Montreuil, qui est de l'Association des carburants, l'Association canadienne, qui lui dit, ben, conjoncture mondiale, et voici ce que ça va donner. Puis en même temps, surveillons les taux d'intérêt. Évidemment, c'est une augmentation modérée. On passe de 0,25 à 1 demi-point, donc 0,50. Avec un contexte d'inflation quand même, mais ça veut dire aussi que ça touche les prêts des citoyens. Alors, prêts hypothécaires, prêts à la consommation, la marge de crédit. Alors, c'est sûr que pour les gens, par exemple, qui ont des revenus beaucoup plus fixes, l'inflation gruge énormément. J'ai tous les jours dans mon boîte de courriel des gens qui m'écrivent en disant « Hey, on va te dire une chose, moi j'ai des revenus de rente, puis ça bouge pas, puis même mes placements sont à la baisse avec tout ce qui se passe en bourse. » Alors, tous ces éléments-là mis ensemble font qu'on est dans une période où les finances, on sent un peu plus l'étau.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Jour 8 de la guerre, les forces russes qui progressent lentement, mais quand même progressent. On a la confirmation que la ville de Kherson, qui est une grande ville du sud de l'Ukraine, est maintenant sous contrôle russe, a été confirmée tant par les Russes que par les Ukrainiens, et qu'il y a d'autres opérations militaires importantes. Et devant la montée de ces soldats russes, on voit de plus en plus donc, de la résistance qui s'organise aussi à l'intérieur des villes. Mais au-delà de ça, ce matin, il y a tout l'angle humanitaire qu'on va regarder. Mais beaucoup s'interrogent sur le président Poutine. Des rumeurs veulent, par exemple, qu'il ait fait une colère contre ses généraux, qu'il n'est pas content du déroulement de l'opération, qu'il n'est pas content non plus de toutes les sanctions qui ont été imposées. Je vais en parler ce matin avec notre invité Sergueï Jirdov, qui est un ancien espion russe, donc du KGB, et qui a été collègue justement de Vladimir Poutine au KGB. Monsieur Jirdov, bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous croyez ces informations diffusées par une chaîne américaine que le président Poutine est furieux, qu'il a fait une colère parce qu'il n'est pas content des résultats de l'opération militaire?
Absolument, parce que j'ai ma propre source qui m'a confirmé hier avant les collègues américains.
Et quand on dit que le président Poutine fait une colère, ça se traduit comment? Ça vise qui et quelles sont les conséquences?
Bah, déjà, vous avez peut-être vu sur les médias une scène rocambolesque quand il a parlé à son directeur des renseignements extérieurs, Naryshkin, le 21 février. Et il l'a traité, enfin, il a humilié publiquement au Kremlin pendant le rendez-vous avec d'autres responsables autour de Poutine. Ça ressemble à ça, et puis il peut piquer des colères. Mais en même temps, ce qu'il faudra dire, c'est que Poutine est responsable lui-même de tout ça. Parce que lui-même, il s'est mis dans la position où il décide tout seul, où il a éliminé de son entourage toute personne qui pouvait lui dire la vérité, parce que tous les gens qui sont autour de lui ne lui disent que s'il veut entendre. Mais quand sur le terrain, il ne se passe pas les choses comme il voulait entendre, il pique les colères. Mais vous savez, c'est comme si les gens lui disaient, Poutine leur demandait de faire lever le soleil à l'ouest et non pas à l'est. Et quand le soleil va continuer quand même à se lever à l'est, il va piquer les colères et exiger de ses responsables qu'ils se lèvent là où il faut. On arrive à une situation comme ça.
Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait, en cours de route, faire des changements, remplacer des généraux, remplacer des conseillers, bref, limoger et amener du sang neuf?
En principe, oui, mais c'est pas sa façon d'agir. C'est pas son modus operandi, comme on dit. S'il limoge quelqu'un maintenant en cours de route, ça veut dire que cette personne n'a pas rempli son rôle comme il fallait. Et si cette personne n'a pas rempli son rôle comme il fallait, c'est-à-dire c'est Poutine qui l'a nommé quand même cette personne, donc du coup, ça lui retomberait sur la figure. Donc du coup, ce sera un aveu d'échec. Et ça, Poutine le déteste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'assez souvent, il garde les mêmes personnes à côté de lui, même quand ces personnes se sont révélées incompétentes.
Vous dites, personne n'a de l'influence sur lui. Les fameux oligarques, ceux qui se sont enrichis d'abord sous Yeltsin et ensuite avec lui, est-ce qu'ils pourraient peut-être exercer une pression en disant « Nous subissons actuellement les conséquences des sanctions économiques. » Bref, amener Poutine à changer de cap.
Non, les oligarques n'ont aucune emprise sur lui, parce que les oligarques gagnent de l'argent grâce à Poutine, ceux qui sont restés en vie ou en Russie, parce que les oligarques qui pouvaient le critiquer, comme par exemple Khodorkovsky, il est allé en prison et puis après il est exilé maintenant à l'extérieur. Berezovsky qui voulait le critiquer, il est mort. Gushinsky, il s'est exilé à l'extérieur. D'autres personnes comme Pougatchov par exemple, qui a donné une très très longue interview à un journaliste ukrainien très connu, Gordon, pendant 5 heures, et qui nous a expliqué aussi, nous a confirmé ce que nous savions déjà, nous, les spécialistes. Donc lui, il est en France et il se cache aussi parce que Poutine lui a pris la moitié de sa fortune. Non, les oligarques ne peuvent pas le faire parce que Poutine a fixé cette règle. Vous faites de l'argent, vous ne faites pas de politique et surtout ne vous mêlez pas de politique. Donc ce ne sont pas les oligarques qui pourraient faire quelque chose. En revanche, les oligarques qui perdent de l'argent, c'est ce que j'ai dit d'une manière un peu olé-olé sur une des chaînes. Je disais que les oligarques ont perdu presque 40 milliards en une journée de capitalisation. À la limite, s'ils ne voulaient pas les perdre davantage, ils auraient pu mettre, je ne sais pas, une petite annonce dans un journal. N'importe quel officier de protection de Poutine sera payé 1 milliard d'euros s'il rapporte Poutine mort ou vif, comme vous savez, comme dans les films américains avec les cow-boys et les indiens. Et vous allez rigoler, mais hier, il y a eu une annonce qui est parue sur Internet. Il y a un certain monsieur qui propose 1 million déjà. Donc voilà.
Vous qui avez été espion, vous qui avez travaillé pour le KGB, est-ce que justement de l'intérieur, on pourrait tenter de neutraliser Poutine, que des gens, au-delà des offres comme ça sur le web, soient tentés de renverser le président?
De toute façon, oui, la réponse est oui. Et de toute façon, dans tous les régimes qui sont les régimes dictatoriaux ou autoritaires, souvent, c'est le coup d'État qui renverse la pyramide. Et donc, bien évidemment, parce que les manifs sont interdites, les manifs sont... Il y a de la répression qui existe en Russie. Donc, la rue ne peut pas décider de ça. Le Parlement n'existe pas en Russie, parce que toutes les institutions qui sont autour de de Poutine. Ce ne sont pas les institutions, ce sont les caisses vides qui font semblant d'être des institutions. Donc le Parlement non plus n'est pas une institution politique autonome qui pourrait faire quoi que ce soit. Les restes, les gens qui sont autour de lui, comme Patrouchev, qui est secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, ou comme Bortnikov, qui est directeur de la Lubyanka, du FSB, ou à la limite même le même Narychkin, parce qu'il a été humilié publiquement, et donc du coup, vous savez, la personne humiliée peut se venger, peut vouloir se venger. Et donc on dit souvent de Poutine, quand il s'est renfermé, quand il a éliminé tous les gens autour de lui, il s'est renfermé sur le petit cercle intime, c'est justement le danger pour lui, le plus grand danger pour lui vient maintenant de ce cercle.
Quand il a, dès le départ, évoqué l'arme nucléaire, est-ce que vous croyez que c'est une forme de bluff ou si c'est le genre actuellement de leader qui pourrait aller jusque-là?
Je crois que c'est la vérité. D'ailleurs, au premier jour de conflit, le 24 février, j'ai eu l'information de ma source qui me disait que Poutine est prêt à employer une arme nucléaire tactique en Ukraine, contre l'Ukraine. Et quand je l'ai dit à quelques journalistes, y compris sur les plateaux, on m'a pris pour un fou, on m'a pris pour une personne qui raconte n'importe quoi. Sauf que dimanche, Poutine a prononcé le mot nucléaire lui-même, et ça a gelé la tête de tous les gens dans le monde entier. Après, il y a Medvedev qui l'a répété, et hier ou ce matin, c'est Lavrov qui l'a répété. Donc il y a déjà trois personnes qui ont prononcé le même mot nucléaire. Donc quand on commence à le prononcer trop souvent, des fois ça se réalise. Mais en revanche, je voudrais peut-être vous rassurer, il ne voudra pas employer une arme nucléaire contre l'Occident, ou contre les pays étrangers. Il voudra impressionner l'Ukraine ou l'Occident par peut-être, éventuellement, hein, c'est pas confirmé non plus à 100%, hein, par une bombe tactique nucléaire d'une kilotonne. Donc si vous voulez, c'est pas énorme, hein, une kilotonne. Hein, même si ça fait peur, hein, comme ça, quand je parle comme ça. Mais surtout, c'est symbolique. Et il va peut-être l'employer uniquement s'il voit que, par exemple, l'Ukraine, qui est un pays quand même de 45 millions d'habitants, lui résiste militairement.
Le président français Emmanuel Macron dit qu'il a, depuis le début des échanges avec Poutine, qu'il va continuer à en avoir. Il parle aussi avec le président ukrainien. Est-ce que vous croyez que c'est utile ou que c'est une perte de temps?
Si on est rationnel et si on cherche à atteindre un but, c'est une perte de temps. D'ailleurs, le président Macron est le premier à le constater parce qu'il est allé voir Poutine en personne. Après, il a parlé à plusieurs reprises au téléphone avec lui. La dernière fois, lorsqu'il a appelé, Poutine lui a dit qu'aucune dégringolade n'était attendue et qu'il a laissé comprendre qu'il pouvait même se rencontrer au sommet avec Joe Biden et avec cet intermédiaire de président Macron. Et le lendemain, on a eu donc cette déclaration de reconnaissance des deux républiques fantoches en Ukraine et on a su que ça a été enregistré quasiment à la même époque où Poutine avait au téléphone président Macron. Donc en fait, Poutine s'est moqué ouvertement de président Macron. D'ailleurs, en France, ça fait un petit scandale politique parce qu'ils sont en campagne électorale et Macron doit se représenter comme au poste présidentiel. Donc voilà. Mais en même temps, hier, Emmanuel Macron fait une déclaration et il a expliqué en quelque sorte sa logique. Donc en fait, la logique d'Emmanuel Macron, c'est en quelque sorte, quand il y a un forcené qui a pris des otages, il y a toujours des pourparlers qui sont menés avec ce forcené jusqu'à la dernière minute. Donc ça ressemble un tout petit peu à ça en fait. Il veut dire qu'il veut que le président Poutine garde contact. Et là, on revient à la même question, à la question que vous m'avez posée précédemment. Est-ce qu'il y a autour de lui quelqu'un qui peut influencer avoir de l'influence sur lui? Est-ce qu'il écoute quelqu'un? Disons que président Macron est parmi les personnes qui, quand il téléphone, Poutine peut décrocher le téléphone et peut passer quelque temps avec lui. Donc, en fait, c'est une sorte de thérapie pour garder contact. Mais je ne crois pas beaucoup dans l'efficacité de cette thérapie.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Sergueï Girnov est un ex-espion russe et collègue de Vladimir Poutine au KGB. Il vit en France maintenant et commente depuis déjà un bon bout de temps, mais avec plus d'intensité, la situation depuis l'invasion russe en Ukraine.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, il y a quelques angles intéressants concernant la situation, évidemment, en Ukraine. Il y a tout l'aspect militaire, portrait du terrain. On va regarder ça avec Jean-François dans quelques instants. Il y a aussi tout le volet humanitaire, je le disais, 1 million de personnes en déplacement et il va y en avoir d'autres, beaucoup d'autres, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et c'est de voir aussi la résistance, quand même, assez incroyable, des Ukrainiens, des images qui veulent tout dire, des gens de tous les âges qui décident de se dresser devant des cortèges de blindés sans armes pour évidemment forcer la note et les amener à ne pas aller plus loin et surtout à ne pas utiliser des armes, justement, contre des gens qui se présentent comme ça devant eux. Mais regardons ce qui se passe également du côté de Moscou avec Andrea Palaciano qui est en ligne avec nous. Andrea, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, des manifestations encore une fois, Moscou, Saint-Pétersbourg, on parle d'arrestations musclées là.
Tout à fait. On a donc le premier opposant au Kremlin, Alexei Navalny, qui est en prison et qui a lancé un appel très relayé et très fort à manifester tous les jours. Et quelques heures à peine après, on a vu que cet appel a été entendu, puisqu'il y a eu des centaines de manifestants dans les grandes villes russes, et encore une fois des arrestations musclées. Et selon une ONG indépendante qui comptabilise les arrestations, depuis le début de la guerre, il y a eu 7000 personnes arrêtées en Russie.
Et entre-temps, on sent aussi une certaine panique là, qui s'empare de Russes qui veulent quitter le pays parce qu'ils craignent, par exemple, l'imposition d'une loi martiale.
Exactement. Donc on sait qu'il va y avoir demain une réunion exceptionnelle du Parlement au grand complet. Et donc les spéculations vont bon train, mais il y a également pas mal d'experts qui disent c'est une possibilité. Ce n'est pas confirmé, mais c'est une possibilité qu'il y ait une introduction de la loi martiale. Et donc beaucoup de personnes, notamment les hommes russes, craignent que si cette loi est introduite, ils ne pourront plus quitter le pays et devront être mobilisés si c'est le cas. Donc on a vu aujourd'hui que le peu de vols qui restent pour quitter la Russie sont pris d'assaut. Il n'y a plus aucun vol en dessous de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc aujourd'hui, par exemple, pour se rendre via Istanbul en Géorgie, à Tbilissi, il faut payer plus de 2000 euros.
Incroyable. Dites-moi, est-ce que les Russes, toujours la même question, mais elle est, je pense, de circonstance, savent qu'il y a de la résistance en Ukraine? Est-ce qu'ils savent également qu'il y a des centaines, peut-être milliers de soldats russes qui sont morts dans ces combats?
Alors, selon les sociologues sur place des instituts indépendants, environ 2/3 des Russes soutiennent cette opération, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que c'est une guerre, ils n'en connaissent pas l'ampleur. Donc ils sont abreuvés à la télévision d'État, qui suit la ligne officielle, et donc ils pensent que c'est une petite opération, presque technique, dans un endroit très réduit, sans victimes, etc. Donc la plupart des Russes qui se disent en faveur de la politique actuelle ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Il y a 1/3 de Russes néanmoins qui sont vraiment opposés farouchement, ce sont eux qui manifestent ou alors qui essayent dans la panique de quitter le pays.
Merci d'avoir été avec nous, Andrea Palaciado, qui nous parlait en Merci. Direct de Moscou.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va passer à un tout autre sujet. Hier, la GRC a confirmé une immense opération contre les cyberprédateurs, des cyberpédophiles. C'est une opération qui a commencé, dit-on, en 2019 par le gouvernement, lancée par le gouvernement de Nouvelle-Zélande. Et ça a permis de découvrir donc des prédateurs aux quatre coins de la planète. On en a trouvé ici au Canada. On parle de 47 individus qui ont été arrêtés dans plusieurs provinces, dont le Québec. Et en même temps, on découvre qu'il y avait des dizaines de milliers de comptes d'utilisateurs qui, justement, allaient chercher et partageaient du matériel de pornographie qui implique des enfants. Quand on regarde la couverture de presse en Nouvelle-Zélande, on découvre que ce sont des enfants, dans beaucoup de cas très jeunes, des bébés qui ont été abusés. Et je veux pas dégoûter les gens, là, je comprends que c'est le matin, mais quand même, parlons d'abus et d'abus violents, et les enfants étaient donc les victimes. Ça pose aussi la question de la circulation de ces images-là, de ces comptes qui existent et du rôle des, ce qu'on appelle des hébergeurs, donc, qui ne semblent pas tout à fait là, filtrer ce qui se passe sur leurs installations, sur leurs équipements. Francis Fortin est avec nous, professeur de criminologie à l'Université de Montréal. C'est un ancien analyste en cybercriminalité à la Sûreté du Québec. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, de voir une opération comme ça qui dure sur plusieurs années, de voir quand même beaucoup d'arrestations, mais surtout beaucoup de comptes. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que c'est un réseau, c'est une façon de partager du matériel ou ce sont des gens qui ont trouvé un hébergeur facile d'accès?
Y a beaucoup de choses à dire dans cette opération-là. C'est que d'habitude, dans le passé, on avait l'habitude de voir les opérations policières ou les frappes, si on veut, se faire en même temps. Là, on a une primeur. Là, on a des arrestations qui se font au compte-gouttes. Ça fait que je pense que les enquêteurs ont décidé d'y aller dans une enquête de longue haleine. Et ça, c'est la première particularité. Les autres, c'est qu'effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si c'est un fournisseur de services Internet, la preuve, je dirais pas qu'elle est béton, mais elle est assez importante. C'est-à-dire que on va fournir aux autorités policières les adresses IP de connexion. Il y a des gens possiblement qui ont fourni leur carte de crédit. On a quelque chose d'intéressant, puis on a le travail est presque, je dirais, il y a quand même un travail de validation qui est à faire, mais il y a beaucoup de la tâche qui on s'en va possiblement chercher quelqu'un assez facilement. Puis troisièmement, je dirais que les opérations internationales, ça fonctionne parfois, des fois ça fonctionne pas. Là, je suis content que ça fonctionne bien et puis qu'on réussisse là justement à collaborer ensemble parce que pour reprendre un vieux cliché, les cyberdélinquants travaillent beaucoup en réseau, mais parfois la police a de la difficulté là internationalement à se coordonner là.
OK. Faut expliquer aux auditeurs ce que ça représente. Là, on parle de dizaines et des dizaines de milliers de comptes d'utilisateurs qui ont été identifiés par la police. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui se branchent par milliers, qui ont accès à du matériel, qui partagent du matériel. Comment ça marche?
Ben, en gros, ce qu'on constate, dans ce cas-là, l'identité de l'hébergeur en tant que tel a pas été annoncée et dévoilée. Mais dans certains cas, il s'agit de personnes qui vont profiter des capacités d'hébergement. C'est possiblement des sites web et ils vont utiliser soit un espace d'hébergement gratuit, soit ils vont utiliser une carte de crédit volée pour faire un espèce de joyride, si vous voulez. Donc, ils vont prendre le 30 jours, ils vont faire le maximum qu'ils ont à faire et ils vont partager, ils vont utiliser d'autres sites pour ramener des gens sur cet espace, ce disque-là qu'il leur est fourni pendant un certain temps. Et le temps que, possiblement, la compagnie se rende compte que le paiement n'est pas passé, évidemment, là, ça dépend des mécanismes de chaque hébergeur. Mais ça peut prendre un certain temps, puis en l'espace de quelques jours même, ça peut déjà avoir permis le transfert de fichiers de façon importante. Là.
OK, mais est-ce que les hébergeurs, comme on les appelle, regardent ce qui se passe chez eux? Est-ce qu'ils savent qu'il y a du matériel violent qui implique des enfants qui sont utilisés à des fins sexuelles par des cyberprédateurs. Est-ce qu'ils tournent le regard? Est-ce qu'ils regardent ce qui se passe? Est-ce qu'ils interviennent? Ou ils laissent ça aller?
Alors ça, c'est la question la plus importante, je pense, là, qui fait les manchettes puis qui est discutée un peu partout. C'est jusqu'où un hébergeur est responsable. Donc, faut se rappeler qu'au Canada, il y a une loi qui dit qu'on est obligé de dénoncer. Donc, l'organisme, le fournisseur de services Internet est obligé de dénoncer s'il constate qu'il y a du contenu illégal sur ses serveurs. Or, ce que la loi ne dit pas nécessairement, c'est qu'il n'est pas tenu d'être proactif. Donc, ça veut dire que on n'oblige pas à forcer, à regarder tout ce qui se passe. Tout ce que la loi dit, c'est si tu envoies, si tu constates qu'il y en a sur tes serveurs, tu es obligé de porter plainte. Alors, elle est là, possiblement, là, la faille. Quand on demande, par exemple, à un site comme Pornhub, donc, vous savez, tout le scandale qu'il y a eu autour de ça, quand on demande le nombre de fois que Pornhub a dénoncé à la GRC du contenu illégal, les autorités de Pornhub n'ont pas été en mesure de répondre à cette question-là à la commission de l'éthique fédérale. Là, ça fait l'année passée, je pense. Donc ça, c'est la zone grise. L'idée, c'est qu'il existe des moyens techniques pour détecter ces images-là au moment même où elles apparaissent, au moment même où elles pourraient être partagées. Google l'utilise, Facebook l'utilise, donc ces technologies-là existent. C'est sûr qu'il n'y a rien d'infaillible dans ça, mais c'est déjà quelque chose qui est un premier pas pour bloquer la première étape, si vous voulez, au moment où la personne veut la partager, on pourrait établir un mécanisme qui dit « OK, cette image-là, on la connaît, on regarde dans notre banque de données d'images connues, celle-là, on la bloque, elle ne sera jamais diffusée. » Or, on constate que ces mécanismes-là techniques et relativement faciles pour un hébergeur, c'est pas toujours appliqué, puis on se demande toujours encore pourquoi.
Ouais. Il y en a au Québec des hébergeurs?
Oui, il y a des gros hébergeurs au Québec.
Est-ce qu'il y a des hébergeurs, disons, connus un peu plus pour ne pas justement installer ces appareils de détection? Bref, des gens qui sont des hébergeurs en sol québécois et qui permettent à des pédophiles d'avoir accès à du matériel.
Il y a des gros fournisseurs, puis on les inclut dans l'ensemble des gros fournisseurs. Alors oui, effectivement, il y a du travail à faire pour les sensibiliser à ça. Il y a eu des articles qui sont sortis dans la presse notamment. Alors oui, il y a de la sensibilisation, puis il y a du travail à faire. Ça c'est évident.
Merci, M. Fortin. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Bonne journée.
Francis Fortin est professeur en criminologie à l'Université de Montréal et aussi a été analyste en cybercriminalité à la Sûreté du Québec. Les détails commencent à être connus. La police dit avoir sauvé une douzaine d'enfants. Et donc, c'est une série de prédateurs. Puis il y aura d'autres arrestations qui vont survenir. Et Bénédicte a quand même fouillé ça pas mal. Puis on a vu aussi le travail en Nouvelle-Zélande, un peu plus de détails sur les opérations, parce qu'on décrit d'abord des victimes très jeunes, puis des victimes qui ont fait l'objet de sévices. Alors, on n'est pas dans le collectionneur d'images d'enfants sur la plage, là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais ce sont des images qui circulent et qui, malheureusement, ne disparaîtront jamais, parce que ça aussi, c'est un enjeu quand même important, parce que vous êtes victime, puis vous voudrez un jour, dès que vous en êtes conscient, faire disparaître ça du web, ben non, ça disparaîtra pas. Puis M. Fortin a raison, là. La responsabilité des hébergeurs est majeure dans ça. Si tu veux pas filtrer ce qui rentre chez vous, ben c'est sûr qu'il y a des photos dégueulasses. Puis entre vous et moi, là, l'hébergeur qui a fait le signalement, ça a pris combien de comptes avant qu'il allume? Ça a pris combien de personnes qui allaient se brancher là avant que lui dise « Ben, coudonc, m'a appelé la police pour leur dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. » Tu sais, t'es pas obligé de surveiller. T'es supposé de le dire quand tu le sais.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va parler de la décision de Québec de présenter son calendrier pour nous dire en un mot que le port du masque obligatoire devrait, en principe, prendre fin à la mi-avril, sauf pour ce qui est du transport en commun. Et donc, à chaque fois, on va faire une espèce d'avis de 10 jours pour dire aux gens, bien, par exemple, dans les magasins, vous ne serez pas tenu de porter le masque. On sait déjà qu'il y a une décision qui est prise pour le retour là, dans les classes, au primaire et au secondaire, donc après la relâche scolaire. Je vais faire le point avec deux spécialistes donc sur ces annonces faites par Québec. Et je précise qu'il y aura aussi point de presse du Dr Boileau, directeur national par intérim de la santé publique, à 10 heures ce matin. Donc avec nous, Dr Gaston Desserre de l'Institut national de santé publique. Dr Desserre, bonjour.
Bonjour.
Et Dr André Veillette, qui est de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Dr Veillette, bonjour.
Bonjour. Bonjour à M. Desserre aussi.
Bonjour.
Alors, je commence avec vous, Dr Veillette. Vous avez vu le calendrier, là, qui n'est pas hyper détaillé, mais on voit la tendance de se rendre quelque part après le début du printemps avec la disparition du masque obligatoire. Vous en pensez quoi?
Ben, c'est sûr qu'on savait que ça allait arriver à un moment donné. Bon, on a encore pas mal de cas dans la population, quoi qu'on ne suit pas très précisément. Là, mais bon, les eaux usées, on devrait recommencer ça bientôt. On sait qu'il y a quand même aussi pas mal de gens qui n'ont pas été chercher leur troisième dose de vaccin. On a le BA.2 qui va peut-être ou peut-être pas créer du trouble. Et puis, je pense que les gens n'ont pas encore tous saisi comment ils peuvent se protéger eux-mêmes en l'absence de règles strictes de la part du gouvernement. Alors, pour tout ça, je pense que c'est un peu vite. J'aurais aimé que ça soit un peu retardé. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui décide. Il y a sûrement des raisons politiques et autres types de raisons qui font que c'est ce que le gouvernement a décidé qu'il va y avoir. Alors, l'important, ça va être de la population et du gouvernement de s'ajuster en conséquence si jamais il y a des risques qui augmentent ou des risques qui persistent.
OK. Dr Desserre, de votre côté, comment vous voyez ça?
Bien, je pense que, un peu comme l'a dit Dr Veillette, c'est certain que la tendance à vouloir enlever les différentes mesures, le masque, etc., c'est une tendance qui est mondiale. Tout le monde veut revenir à un fonctionnement normal. Maintenant, il faut comprendre que l'arrivée de l'Omicron a changé beaucoup de choses. L'Omicron, au niveau du Québec, on a utilisé les vaccins pas mal à leur maximum, dans le sens où ceux qui voulaient avoir leur dose de vaccin, ils sont pas mal venus, là. Ceux, ils en viendront presque pas d'autres dans les prochaines semaines, à moins d'un changement que je peux pas imaginer. Et pour la troisième dose, si on regarde les gens de 60 ans et plus, la très grande majorité sont venus chercher leur troisième dose. Le grand nombre d'individus qui ont été infectés depuis le mois de décembre. Alors hier, on a sorti nos modélisations pour voir justement au niveau scientifique qu'est-ce qui va arriver avec ces assouplissements-là. Et évidemment, ces modélisations-là, ils ont de l'incertitude parce qu'on ne sait pas exactement comment la population va se comporter. Fait qu'on fait deux scénarios. Un où les gens continuent à avoir des contacts, mais ils font pas là, exprès pour aller voir 12 personnes par jour à tous les jours de la semaine pour reprendre le temps perdu au cours des deux dernières années. Mais dans un scénario optimiste, on voit que l'assouplissement va amener une augmentation de la transmission, mais pas de grandes augmentations au niveau des hospitalisations. Dans un scénario où, au contraire, les gens auraient beaucoup plus de contacts, là, il va y avoir une remontée de la transmission, mais une remontée qui est absolument pas comparable avec ce qu'on vient de vivre là, à la fin décembre, début janvier. Donc, je pense que là, une fois qu'on a ces données-là au niveau scientifique de comment l'épidémie risque d'évoluer, bien là, c'est le gouvernement qui décide, bon, est-ce qu'on prend ce risque-là de relâcher les mesures pour les bénéfices, évidemment, qu'on obtient à faire qu'on retourne à un mode de vie plus normal.
OK. Dr Veillette, vous parliez tantôt des comportements là, qui vont accompagner, je dirais, par étapes, la levée du masque obligatoire. On peut penser que dans les hôpitaux, ça va être maintenu. On peut penser que les employés, peut-être, de CHSLD vont quand même garder le masque un bon bout de temps encore. Est-ce qu'on peut aussi penser que les gens vont avoir retenu une certaine leçon? C'est-à-dire que si on a des symptômes, ben on sort pas, puis garder peut-être aussi une distance. Pensez-vous qu'il y a des réflexes qui vont changer ou qui ont changé?
Ah, tout à fait. Je pense que pour un bon nombre de gens, les gens ont appris à gérer le virus. Et puis, il va y avoir un bon nombre, je crois, qui, malgré le fait que les obligations de le porter vont être levées, ils vont réaliser qu'il y a quand même encore beaucoup de cas, puis ils vont comprendre que le virus est transmis par aérosol, puis ils vont comprendre aussi qu'il y a des meilleurs masques, comme les masques N95. Alors donc, ils vont les porter dans des situations où ils évaluent qu'ils ont un risque. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a probablement aussi des gens qui voient la levée du port de masque obligatoire comme un signe que finalement, il n'y a plus de risque associé avec le virus et puis il n'y a plus de risque associé avec l'absence de port de masque. Alors, il va y avoir toutes sortes de gens. Je pense que c'est important que la santé publique gouvernementale continue à intensifier l'éducation du public sur l'importance, comme Dr. Dessert a dit, évidemment, d'aller chercher sa troisième dose. Je suis d'accord avec lui qu'on a peut-être atteint le maximum. Là, on va peut-être aller en chercher quelques-uns, mais pas beaucoup plus. Mais l'importance d'utiliser de façon intelligente le masque et les meilleurs masques dans des contextes où il y aura un risque. Alors moi, je vous parle par exemple de mon laboratoire. J'ai un laboratoire d'une douzaine de personnes. On est présentement en discussion à savoir, même si l'obligation du port de masque est levée, est-ce qu'on va tous le porter? Parce qu'on a des gens dans notre laboratoire qui ont des parents de 80 ans et plus qui sont malades. Alors, on discute à savoir si on a une responsabilité collective de protéger les gens. Alors, je pense qu'il va falloir que les gens développent ce type de réflexe, ce type de pensée, de réflexion pour eux-mêmes et leur environnement, pour évaluer les risques et pour évaluer les bénéfices de porter dans certains contextes ou à certains moments le masque et les meilleurs masques.
Docteur Dessert, vous aussi, vous pensez que les gens ont retenu la leçon, puis j'allais vous dire, est-ce que on peut penser que le mois d'avril, le mois de mai, ça va être le début, pas de la vie tout à fait comme c'était avant, mais quand même, là, on a beaucoup joué avec ça, là. La fin, en fait, la lumière au bout du tunnel, puis disons le retour à une certaine normalité.
Je vous dirais oui. Dans le sens où c'est certain qu'avec l'été, c'est une période où, dans les deux dernières années, on a pu voir que la transmission devient vraiment très limitée. Donc, on s'en va vers une période de transmission tranquille. Maintenant, un des points qu'il faut comprendre, c'est que à moyen terme, là, tout le monde dans la population va rencontrer le virus. Hein? Et actuellement, on peut dire que, je dirais, les deux derniers mois ont été extrêmement florides en termes de gens qui ont rencontré le virus, qui ont fait l'infection, mais il en reste plusieurs qui n'ont pas rencontré le virus. Et on réussira pas, malgré l'outil qu'on a, le vaccin, à faire que ça arrive pas, ces choses-là. Il va y avoir des gens qui vont être infectés. Le vaccin a montré qu'il est très efficace pour prévenir les issues graves, les hospitalisations, les décès, les admissions aux soins intensifs. Malheureusement, l'Omicron, qui est différent du virus initial avec lequel on a fait le vaccin, est capable de infecter les gens, de leur provoquer des symptômes. Et ça, ben, je dirais, c'est ce qu'on vient de voir là, depuis les deux derniers mois. Et j'allais dire, penser qu'on peut se protéger d'une façon qu'on rencontrera jamais le virus, que le virus aura jamais la chance de nous infecter, ça c'est illusoire. Maintenant, il ne faut pas que ça arrive tout en même temps, parce que là, évidemment, on aurait une montée qui serait fulgurante. Là.
Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée, Dr. Veillette et Dr. Dessert. Et je rappelle donc le point de presse du Dr. Boileau cet après-midi. En fait, donc, ce matin à 10h. Sur, encore une fois, ce calendrier pour la levée d'obligation du port du masque qui va se faire par étapes, là, grosso modo, jusqu'à la mi-avril, sauf pour le transport en commun.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.